BFM Business, 15h30, 16h. USA Today, Antoine Larigauderie.
Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition du USA Today, votre demi-heure 100% consacrée aux marchés américains, à Wall Street, à l'ouverture des indices, que ce soit le Dow Jones, le Nasdaq, le S&P 500. Vous aurez même droit à un petit point sur le VIX, hein, c'est toujours utile. Sur le marché obligataire qui nous préoccupe, bah oui, c'est le premier gros titre de cet après-midi. Effectivement, les taux d'intérêt qui se tendent alors partout dans le monde, mais singulièrement du côté des États-Unis où on atteint des cotes d'alerte sur les dettes longues, que ce soit le 10 ans, le 30 ans. Évidemment, ça change le paradigme, ça oblige la Banque centrale américaine à plancher sur ces scénarios, ça oblige les autorités américaines même à être tentées par une certaine forme d'interventionnisme de marché. Ça crée des déséquilibres aussi avec le yen, et là aussi ça provoque une certaine forme d'interventionnisme. Et au milieu de tout ça, ben vos actifs, ceux que vous détenez en portefeuille, ceux que tous les investisseurs financiers détiennent en portefeuille, il y a des arbitrages à faire, il y a des paradigmes qui changent, et tout ça, c'est une rentrée un petit peu plus agitée que ce à quoi on pouvait s'attendre après un été qui a été relativement calme. Là, les affaires reprennent et ça part un petit peu dans tous les sens. Au milieu de tout ça, il y a aussi les résultats de l'intelligence artificielle. Au milieu de tout ça, il y a aussi des considérations techniques et technologiques. Au milieu de l'électrification de l'industrie qui prend un tour de plus en plus dynamique avec l'émergence et l'adoption de l'intelligence artificielle et tous ces sujets. On va en parler dans cette USA Today. Les indices américains qui ouvrent tranquillement, on est en hausse de 0,47% sur le S&P 500 à 7702 points, plus 0,63 pour le Dow Jones, on est à 53 397, plus 0,45% pour le Nasdaq qui est à 26 334 points. Du côté des marchés européens, il ne se passe pas grand chose, on est plutôt à la hausse, plus 0,18% pour l'Eurostock 50, mais le CAC 40 est encore à la traîne, plus 0,02%. Faut-il y voir une certaine forme de pression et de risque pays qui va se confirmer semaine après semaine? On se posera également la question dans BFM Bourse tout à l'heure avec Guillaume Sommerer aux commandes. Pour l'heure, on commence cette édition d'USA Today. C'est parti.
USA Today sur BFM Business.
Nos invités du jour, Charlotte Tamer de Shares, bonjour.
Bonjour.
Alexandre Ezez des établissements Alexandre Ezez, bien sûr.
Bonjour.
Comme d'habitude, bonjour. Et puis, comme d'habitude aussi, John Plassard, Cité Gestion, notre grand témoin de l'actualité américaine au sens large, hein, parce qu'avec vous, on parle de tout. On parle de politique, de géopolitique, on parle de marché financier, on parle de secteur bancaire, on parle de technologie, et puis on va parler de taux aujourd'hui. Et oui, parce que les taux se tendent. Alors, à court terme, on est repassé sous la cote d'alerte. Là, vraiment, ça sonnait 4,8% à tout rompre, hein, autour du 10 ans américain. On descend à 4,75. Il y a une certaine forme de détente aujourd'hui. Mais cette tension obligataire, elle reste dans tous les esprits. Et elle est véritablement le catalyseur de ce début de rentrée.
Ouais, surtout que c'est un sujet dont on parle depuis pas très longtemps. Et pourtant, le momentum était déjà lancé depuis le début d'année. Oui, en tout cas sur les taux longs, mais là, on en a commencé à en parler en fin de l'été, je dirais, où on avait un stress, hein, on avait parlé du Japon déjà. Et puis, il faut rappeler une chose qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a les taux à 10 ans aux États-Unis et il y a les taux à 30 ans. Et si vous regardez les taux à 10 ans, ben, il y a 12 mois, on était quasiment au même niveau. Et on se souvient qu'il y a 12 mois, on avait encore... C'est il y a très longtemps, on avait encore des anticipations que la Réserve fédérale américaine allait baisser ses taux en 2026. Là, on est sur une voire deux hausses de taux anticipation pour la fin de l'année. Donc, on a le 10 ans qui reflète plus les anticipations de hausse de taux par rapport à ce qu'on avait avant. Et puis, on a le 30 ans, on en a parlé beaucoup, le 30 ans en Europe, le 30 ans au Japon, le 30 ans aux États-Unis. Là, on est quand même dans une situation qui nous met plus en avant l'inflation, l'anticipation de l'inflation, les déficits qui sont très élevés, la dette américaine, 40 000 milliards de dollars, et les fameuses émissions obligataires des grandes entreprises, notamment dans l'intelligence artificielle. Alors, on en parle souvent, vous savez, notamment à USA Today, mais on ne dit pas assez quelles sont les conséquences immédiates. Les conséquences immédiates, c'est sur le crédit immobilier, bien sûr, ça monte, notamment aux États-Unis, 30 ans, donc les nouveaux entrants vont payer plus cher, eh bien, chaque mois pour avoir une maison. On a des emprunts d'entreprise qui montent et puis aussi les refinancements d'État. Et là, vous parliez avant, Antoine, de politique. Ben, on est en plein dedans parce que qu'est-ce qu'on peut faire si le taux, notamment à long terme, français, eh bien, remonte? Ce sera un problème pour le prochain gouvernement. D'un côté, on a les offres qui explosent, on a dit, les gouvernements, et puis aussi les entreprises. Et puis, de l'autre côté, bah, on a une demande qui est moins automatique qu'avant parce qu'on ne force pas un âne à boire et en l'occurrence, un investisseur à investir lorsqu'il a déjà investi. Donc, faire assez attention parce que ça pourrait aller au-delà. Aujourd'hui, oui, vous l'avez dit, il y a une certaine détente. C'est pour ça que les marchés montent, mais on peut avoir une implication sur les actions, sur l'allocation d'actifs. On sait que si les rendements montent trop vite, ben ça comprime les valorisations des actions et évidemment, ça fragilise les budgets publics.
Charlotte Tamer de Shares, c'est vrai qu'on a, on avait l'habitude, déjà je suis content de vous recueillir pour une nouvelle saison, c'est vrai qu'on a plutôt l'habitude de vous entendre dans Tout pour investir, hein, l'émission du matin de 11h à 11h30. Là je fais appel à celle qui est quand même passionnée par l'état des marchés, de la gestion d'actifs, etc. Ce contexte de tension obligataire continue, et c'est vrai, John l'a dit très justement, on en parle depuis quelques jours, alors que ça fait quand même des semaines que ça couve et que ça pose problème aux autorités monétaires, mais tout ça, c'est en train de changer un petit peu la carte des actifs à gérer. Je dirais un truc tout bête, c'est que, oulala, il y a bon le fonds euro, mais le private equity, les valeurs taux, comment ça se passe, cette rentrée est vraiment compliquée du point de vue de la gestion d'actifs aussi.
Si on le dit d'un point de vue un peu générique, je dirais que ce qui fait le malheur des uns va faire le bonheur des autres.
Tout à fait.
Forcément. Donc, ouais. Tout dépend en fait si on est déjà investi ou si on est en phase de prendre une décision d'investissement. Effectivement, comme il le disait, c'est particulièrement mauvais pour l'immobilier, mais pas qu'aux US. Hein. Je pense qu'en France, aussi, juste en France, hein, c'est assez catastrophique puisque le taux de 10 ans, je crois annoncé hier, était autour de 4,5, enfin un peu plus de 4, était un peu plus de 4,5. Et donc c'est quand même assez problématique pour tous les primo-accédants. Mais même les gens qui cherchent à changer tout simplement à acquérir de l'immobilier, que ce soit dans le domaine résidentiel ou même professionnel. Mmh. C'est quand même assez, vu le contexte tel qu'il l'était avant les vacances d'été, c'est quand même pas très enthousiasmant. Pour la partie action, bah, on a parlé de survalorisation, on en parle depuis déjà plusieurs mois, donc forcément une remontée rapide des taux pourrait venir compresser la valorisation d'entreprise et la performance. De là, liquider son portefeuille, je ne le pense pas.
Non, surtout pas. Mais juste
effectivement, être attentif. Ouais. Par contre, le point positif qu'on peut voir à travers ça, c'est que comme l'argent n'est plus gratuit, eh bien, ça permet aussi d'adapter un peu plus de valeur défensive dans son portefeuille et peut-être d'anticiper, d'avoir une vision peut-être un peu plus neutre du futur et avoir une position un petit peu plus défensive qui, cette fois-ci, sera rémunérée. Alors, en comparaison, enfin, c'est-à-dire, faut mettre ça face au risque inflationniste, bien évidemment. Hein, c'est pas du 4,5 net, bien évidemment. Faut regarder par rapport au coût de la vie, mais en tout cas, il y a quelques opportunités à saisir. Après, il faut bien rappeler le fonctionnement d'une obligation, que plus la maturation d'une obligation est longue, plus elle est sensible à la variation de taux. Donc là, on n'est pas en train de dire jetez-vous sur les obligations. De toute façon, c'est un marché beaucoup moins démocratisé que celui des actions, hein, beaucoup plus difficile d'accès. Mais en tout cas, il y a peut-être une opportunité de mettre un petit peu plus de défensif dans son portefeuille en anticipation de choses un peu moins sympathiques d'ici la fin d'année.
Oui, forcément. Et peut-être, tiens, ce qu'on appelle les valeurs ennuyeuses sur le marché actions, hein, les valeurs de rendement, les grosses infrastructures, l'énergie, la banque, qui en plus marchent pas mal du point de vue de la dynamique, mais qui distribuent du coupon. Alors ça, c'est peut-être aussi une option à étudier. Et on en parlera d'ailleurs, ce sera notre question du jour dans BFM Bourse tout à l'heure avec Guillaume Sommerer. En attendant, Alexandre Ezès, vous, votre regard de stratège, la carte est en train de changer, certes. Maintenant, la dynamique, on a passé plusieurs étapes sur les codes d'alerte, on va dire. Oh là là, vraiment, les 4,5% sur la dette américaine, ça va être compliqué. Bon, là, on est déjà à 4,8. Le risque, c'est que ça devient un petit peu hors de contrôle, cette affaire.
Alors, est-ce que ça devient hors de contrôle?
Pas pour le moment, on a l'impression, mais...
Pas pour le moment. Finalement, on se rend bien compte que la Banque Centrale Américaine, elle laisse un peu les taux longs au marché. Et finalement, elle s'occupe des taux courts.
C'est ce qu'avait dit Scott Bessent, d'ailleurs. Exactement. Laisser faire le marché de taux.
Et en fait, c'est un peu cet accord, en fait, ces discussions entre le Trésor et la Banque centrale et l'indépendance de la Banque centrale. Donc finalement, il y a un équilibre qui se crée. Qui aurait dit, avec des taux avec 4,80, qu'on soit au plus haut de marché sur les États-Unis, personne n'aurait signé. Mais donc, il faut comprendre pourquoi. En fait, il y a plusieurs choses. On peut parler de défiance, effectivement, sur le budget américain. On peut parler d'inflation supplémentaire. C'est vrai qu'il y a une inflation qui va perdurer. On voit bien quand on va dans les entreprises, les entreprises ont du mal à répercuter encore l'inflation. Ça va durer de plus en plus longtemps. Donc ça veut dire que l'inflation, en fait, elle va rester assez centrale et assez haute. Donc on a des craintes sur l'inflation, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a aussi la croissance. L'économie américaine a une croissance importante. Si on est à 2,5 de croissance, les taux longs, c'est aussi de la croissance, de l'inflation et puis une prime de risque. Vous mettez 3,5% d'inflation, 2,5% de croissance, vous avez les 5 et finalement, c'est cet équilibre qui est en train de se créer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on revient sur les marchés, c'est que normalement, ça, de manière, on va dire, calculatoire, ça doit impacter les valeurs à duration longue. Qu'est-ce qu'il y a de plus long que les valeurs tech qui investissent? Non, mais c'est celle-ci qui devrait. Et finalement, ça fonctionne assez bien. Pourquoi? Parce que le marché tient. Parce que en plus, alors c'est en lien avec la croissance, mais il y a une perspective bénéficiaire qui est stratosphérique de la part des entreprises. On va parler de Broadcom, on va parler de Snowflake, Nvidia, Dell, HPE. Enfin, je veux dire, c'est des perspectives, des croissances qui sont gigantesques. Donc, en fait, finalement, la valorisation n'est pas un sujet actuellement lié au taux d'intérêt. Par contre, plus on monte, plus ça crée un risque systémique. C'est-à-dire que si la perspective bénéficiaire, à un moment, se retourne, pour l'instant, à court terme, on n'a pas l'impression, au vu des perspectives que l'on a, mais on va parler de goulot d'étranglement, etc. Il y a bien sûr. Peut avoir quelque chose qui peut arrêter tout ça, que l'on n'a peut-être pas encore imaginé.
Le signe noir.
Ça va poser un sujet. Mais pour l'instant, les perspectives bénéficiaires sont tellement fortes qu'en fait, ça n'a pas véritablement d'impact. Alors, je pense que l'impact sur les taux d'intérêt aux États-Unis est bien moindre que ce que l'on peut avoir sur l'Europe. C'est moins le sujet aujourd'hui, mais je pense qu'en Europe, sur la France, etc.,
les impacts sont
une économie qui est beaucoup plus liée au taux d'intérêt aux États-Unis, où là, il y a un équilibre de marché qui se crée et les banques sont beaucoup plus solides, en tout cas, peuvent gérer ça.
Goulot d'étranglement, on a quand même prononcé le nom. Alors, l'IA en crée beaucoup. Les puces, les cartes graphiques, etc., les matières premières critiques, l'eau. Jensen Huang, le patron d'NVIDIA, qui dit que l'IA doit être considérée comme une infrastructure commune, comme l'eau, comme l'électricité. Bon, le prochain goulot d'étranglement, il pourrait s'appeler le transformateur électrique. C'est peut-être le truc dont on va avoir le plus besoin ces prochaines années. Il y a quelques années, c'était la carte graphique GeForce RTX de chez NVIDIA. Maintenant, c'est le transformateur Schneider électrique, si on devait tout résumer en un produit et une marque.
Oui, tout à fait. Et c'est passé un petit peu sur le côté. Les gens n'en ont pas beaucoup parlé, mais vous avez la Maison Blanche qui vient de renforcer les restrictions sur certains équipements électriques étrangers. Alors, on sait que le problème, c'est plus seulement, vous venez de le dire, Antoine, de produire assez d'électricité pour l'intelligence artificielle. Il faut aussi pouvoir la transformer, cette électricité, la transporter, raccorder les centres de données au réseau. Eh bien là, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise notamment des transformateurs haute tension. Alors, vous allez me dire que je parle des années 80. Non, je parle d'aujourd'hui. Mmh. On utilise toujours des transformateurs haute tension, ce qu'on appelle des switchgear et des équipements de sous-station. Eh bien, pour avoir ça, pour avoir cette transformation, ça prend déjà très longtemps. Les délais de livraison aux États-Unis prennent très longtemps, parfois plusieurs années. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a cette nouvelle restriction qui vient d'être mise en place aux États-Unis, eh bien, ça peut évidemment sécuriser le réseau américain. C'est extraordinaire. Mais d'un autre côté, ça risque aussi d'augmenter les coûts, bien évidemment, et les retards de projet si l'offre domestique ne monte pas assez vite. Et donc, ici, on est dans une situation où ce goulot d'étranglement, eh bien, va et potentiellement sera exploitable parce qu'il y a des acteurs qui sont là-dedans, que ce soit Eaton, que ce soit, vous avez dit, Schneider, GE Verona ou même Siemens Energy, qui sont déjà implantés, eux, aux États-Unis. Donc, ils n'ont pas pas cette foudre de restrictions du gouvernement américain, mais on voit ici que c'est pas simplement les puces, c'est pas simplement eh bien, la mémoire, mais c'est aussi les transformateurs, ces vieux transformateurs, comme j'aime à les appeler, qui sont pas si vieux que ça, mais qu'on utilise toujours. Et là, potentiellement, ça peut poser aussi problème aux États-Unis.
Surtout que du côté des États-Unis, et on le dit jamais assez, mais le réseau électrique est très vieux et a besoin d'une très très grosse rénovation, surtout pour intégrer cette espèce d'énorme point d'ancrage que va constituer l'IA. Charlotte Tamer, ce qu'il y a d'intéressant dans cette révolution de l'IA, c'est que au fur et à mesure, on peut identifier des secteurs en cascade qui vont se transformer. Alors avec l'IA, mais d'autres pour l'IA. Et c'est le cas notamment de l'infrastructure, de l'électricité, du BTP aussi. Vinci a une vraie expertise là-dedans. Les Schneider, on n'en parle pas. Mais il y a une vraie transformation qui est assez compliquée à appréhender. Mais si on arrive à prendre la vague au bon moment, là, on peut éventuellement placer des petits pions pour faire des affaires.
Exactement. Ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que pour faire de l'intelligence artificielle, en fait, il faut quand même de l'intelligence électrique. Hein. Ça se fait pas tout seul. Et que finalement, quand on a une tendance, un secteur qui a tendance à exploser, parce que là on est quand même sur une révolution qui est déjà lancée, mais en fait il n'y a pas qu'une étoile dans le ciel. Voilà, et là on rentre dans un second chapitre de l'ère de l'IA. On commence à rentrer dans une phase plus de revenus, de monétisation de l'IA. On rentre en fait sur une économie artificielle qui devient une économie physique, puisque là on parle d'infrastructures, enfin on parle de choses qu'on peut toucher, qu'on fabrique dans des usines, etc. Et donc on voit aussi sur toute cette chaîne de valeur de l'intelligence artificielle, on voit des sous-jacents, on voit des investissements de second temps qui sont en train d'arriver et qui peuvent être aussi des opportunités d'investissement long terme, hein, bien évidemment, sur ce sujet-là, et qui peuvent offrir des valorisations plus attractives que les valeurs stars dont on parle depuis déjà quelques années.
Ça reste le défi de ces prochaines années. Et Alexandre Hezez, oui, on a une forme de transformation qui est en train d'arriver de manière accélérée, de manière très très forte grâce à l'IA, mais on est en plus en train de prendre une sorte de curieux biais comportemental, parce qu'avant que l'IA n'explose, on était en pleine période de « attention, l'électrification va toucher tous les secteurs de la société ». Que soit l'IA, mais que soit plein d'autres, les usines, l'automobile évidemment, et on voit que la révolution se passe quand même très très mal pour la plupart des constructeurs. Mais l'électrification, de manière générale, avant même l'IA, c'est peut-être ça la révolution qui va suivre.
C'est la révolution, c'est effectivement les infrastructures. Vous l'avez dit tout à l'heure, aux États-Unis, il y en a un grand besoin. Ça permet aussi de renouveler ces infrastructures aux États-Unis. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Quand on écoute effectivement les patrons de Schneider, ce qui est intéressant, c'est que il y a aussi les infrastructures, mais il y a toute la recherche sur l'efficience énergétique. Enfin, dans les centres de données, là, ce qui s'est passé en 2 ans sur la recherche, l'efficience via les racks. Enfin, avant on parlait que de puces, mais maintenant on essaye de monitorer l'énergie. Donc le but, il est aussi évidemment là, parce qu'on sait que c'est un goulot d'étranglement. Après, le véritable enjeu, alors est-ce que c'est pour les marchés ou pas, c'est de savoir si une partie de cette électricité dont on a besoin, si on a une demande très importante, une nouvelle demande, finalement, est-ce qu'il y a une autre demande qui va se raréfier, enfin en tout cas qui va ne pas être amenée comme pour les particuliers. Enfin, on peut avoir dans d'autres domaines des problématiques. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est que il y a des secteurs qui vont en profiter. Alors, on a parlé de toute l'électrification, mais par exemple aux États-Unis, un secteur qui a un peu, avec la hausse du pétrole, a un peu souffert, mais avait fortement monté, c'est par exemple les transports, les camions.
Tout bêtement,
mais pour fabriquer des data centers, il faut des camions, il faut transporter du matériel, etc. Ouais. Et c'est les XPO, etc. Enfin, des valeurs qui sont complètement délaissées, mais qui ont des résultats opérationnels très bons et qui vont continuer. Là, on commence à parler des chemins de fer, parce que aussi, quand vous avez autant de construction, donc c'est de l'activité.
XPO, les chemins de fer, c'est pas les grosses positions de Warren Buffett, historiquement.
De la bonne économie réelle, de la bonne du palpable. Économie réelle. Et donc, il faut effectivement. On parle d'intelligence artificielle, mais effectivement, c'est
qui est connexe et qui permettra de la créer, quoi.
Exactement. Ouais. Après, encore une fois, on va avoir des goulots. On peut avoir des goulots d'étranglement un peu de partout. Il y en a plusieurs. Hein, énergie, puces, financement. Enfin, en fait, l'IA aspire tellement de choses. C'est tellement rapide que tout le monde se dit, mais ça peut pas continuer. Mais, ouais. mais finalement, ça continue et finalement, ça prend de la richesse sur d'autres secteurs qui sont très faibles. Vous parliez de l'automobile, c'est vrai que quand on parle de l'électrification de l'automobile, c'est pas véritablement une réussite pour le moment.
Pour le moment, c'est clair. Enfin, à part peut-être pour certains constructeurs chinois. Et encore, ils souffrent comme tout le monde, hein, de la concurrence et en plus chez eux. Autre problème, John Plassard, on va parler parce que c'est évidemment le gros de la saison de résultats est terminé, mais il y en a encore qui tombent. Et alors, Microsoft va dévoiler ses chiffres de vente, mais en faisant quoi ? Les chiffres de vente d'Azure vont être présentés de manière différente pendant leur présentation, justement pour intégrer un petit peu l'IA et la mettre sous le spotlight, si je comprends bien.
Ouais, tout à fait. Alors, il faut rappeler une chose, vous venez de le dire, Microsoft a déjà publié ses résultats. Maintenant, c'était les détails. Vous savez, quand on parlait du cloud de Microsoft, Azure, on ne savait pas vraiment quel était le chiffre qui était publié. On ne savait pas vraiment où les positionner par rapport à Amazon ou par rapport à Google.
Oui, là, c'était dans une ligne comptable un peu vague. Hein. C'était, je ne sais plus comment elle s'appelait, mais effectivement, ça regroupait le cloud Azure avec d'autres activités, on va dire. Donc, c'est vrai que ce n'était pas forcément très clair.
Ouais, on l'appelait agent et infrastructure. Voilà. Donc c'était vraiment très 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 vague. Puis on savait pas vraiment où les situer par rapport aux concurrents. Bah là on a les chiffres. 29,4 milliards de dollars sur le dernier trimestre et si on arrête l'exercice fiscal qui est clos à fin juin, c'est un peu plus de 100 milliards de dollars. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça devient comparable comme j'ai dit aux principaux concurrents qui eux publient. Vous avez Amazon, AWS, ils ont un peu plus de 42 milliards de dollars de revenus trimestriels, donc ils sont devant Microsoft. Mais derrière, vous avez Google Cloud, qui eux sont plus ou moins à 25 milliards de dollars. Donc ils sont au milieu. Et vous l'avez dit, ils vont simplifier la publication de leur reporting à chaque fois. Ils vont passer de 3 à 2 segments et ils vont dire exactement pourquoi, combien plutôt, AWS rapporte. Pourquoi ? Parce que Microsoft veut désormais permettre aux investisseurs, ceux qui investissent dans Microsoft, de mesurer plus précisément la taille et la monétisation. Ben oui. Je l'ai dit, c'est le mot magique pour l'intelligence artificielle, la monétisation de leur cloud. Et ça, c'est très important. Parce que vous savez, on disait, bon, on investit dans les CAPEX, mais à un moment, ça ne paye toujours pas. Ben là, on a vu que Azure, ben ça paye. Et donc, ça, c'est très important. Et potentiellement, les prochaines fois, eh bien, on aura, pas potentiellement, c'est sûr, on aura les yeux rivés sur Azure. Alors, bon, on avait tous les économistes les analystes, ben, c'était donné plus ou moins un chiffre, évidemment, environ. Sur AWS et on est légèrement en dessous ce que nous a publié Microsoft, donc c'est une légère déception, mais c'est essentiellement dû à un transfert comptable d'une partie des revenus, donc ça devrait être corrigé au prochain trimestre, donc c'est quelque chose de très très positif et effectivement on rentre dans cette phase de monétisation qu'on attendait depuis pas mal de temps.
Et c'est en train de tout révolutionner, même les normes comptables. Vous vous rendez compte ? Bientôt, on va parler de comptes avec IA intégrée. Non, mais c'est vrai que ça peut être aussi la tentation pour certains groupes, et on le voit d'ailleurs en Europe, des groupes qui se trouvent une seconde vie grâce à l'IA, en intégrant tout ça, en packageant la chose. Est-ce que ce n'est pas finalement ça qui manque ? Parce qu'on se plaint tout le temps de... les valeurs européennes, elles sont loin de ces préoccupations, elles n'ont pas la taille critique qu'ont les Américains. Ben finalement, on se rend compte qu'elles ont des choses à raconter, et notamment sur l'IA, qu'on ne soupçonnerait pas. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de bon storytelling pour activer un petit peu cette dynamique autour des valeurs européennes, selon vous, Charlotte Tamer ?
Ben, je pense qu'il y a un biais psychologique, de toute façon. Enfin, là, on est entre les États-Unis et l'Europe. Il a déjà été démontré sur des tonnes de sujets, dont l'investissement. Je pense que l'Europe, je parle plus des Français, mais élargissons un petit peu sur l'Europe. Ce n'est pas vrai pour tous les pays, mais on est beaucoup plus méfiants. Vis-à-vis de la nouveauté, on va d'abord chercher le risque avant de voir l'opportunité ou l'avantage d'une révolution telle que l'intelligence artificielle. Et donc là où les États-Unis ont déjà pris leur parti pris avec parfois un peu trop aussi de storytelling. Il n'y a pas que du bon, mais on a vu ce que disait justement Alexandre tout à l'heure, c'est-à-dire que l'IA entraîne avec elle des secteurs qui étaient parfois un peu oubliés ou laissés pour compte. Et finalement, cette IA, elle fait un peu paniquer en Europe. Mais ce qu'on voit aux États-Unis, qui l'ont embrasée beaucoup plus fortement que nous, c'est qu'elle est plutôt généreuse et qu'elle entraîne dans son sillon tous ceux qui ont un petit peu envie de participer à cette révolution. Après, à tort ou à raison, aujourd'hui, on ne sait pas encore, on ne sait pas exactement ce que ça va devenir, mais à un moment donné, il faut quand même choisir son camp, de se dire, soit on y va, mais l'entre-deux sera forcément, dans ce type, je pense, de clivage, sera forcément déceptif. Après, le positionnement là de Microsoft, qui surfe clairement sur cette tendance, ils sont dans le bon momentum, et clairement, tout le monde est en attente de se dire, il y a eu des milliards et des milliards injectés, quels sont les revenus, où sont les marges. Tout le monde finissait par se demander, à part un effet d'engouement sur les valeurs technologiques, se dire concrètement, on en est où? Où est-ce qu'en est l'IA? Enfin, on voit bien les avancées, mais financièrement, qu'est-ce que ça donne? Et c'est là où je disais tout à l'heure, je pense qu'on rentre dans une phase de maturité pour l'intelligence artificielle et qui se manifeste aussi par une matérialisation physique, ce qu'on disait juste avant, en fait, tout se reboucle finalement, mais on arrive sur quelque chose de beaucoup plus concret, beaucoup plus palpable, et je pense qu'on rentre dans une phase de consolidation de l'intelligence, des intelligences artificielles.
Très intéressant, effectivement. Et Microsoft, qui profite de cette annonce du particularisme Azure désormais dans ses comptes, pour qu'on voit un petit peu, pour qu'on palpe un petit peu de cette dynamique, et le titre prend 2,8%, $510.87, et on se plaignait ces derniers mois de voir Microsoft un petit peu en retrait des autres de valeurs de croissance high-tech, justement, même faire office de valeur un petit peu value. John, on va terminer avec deux résultats qui étaient annoncés du côté de Wall Street et qui étaient assez attendus. C'est Broadcom dans les semi-conducteurs et Snowflake dans le domaine de l'infrastructure cyber.
Oui, je fais très rapide. La conclusion, c'est quoi? C'est que la demande d'infrastructure d'intelligence artificielle, ça ralentit pas. Ouais. Broadcom qui relève ses prévisions de revenus liées aux puces de l'intelligence artificielle pour 2027 de 100 milliards à 115 milliards. Et puis, ils anticipent un doublement à environ 230 milliards en 2028. Pour 2028. Oui. Donc, absolument extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe ici? On est dans une situation où si on remonte ces estimations pour 2027 et 2028, on a quand même une déception sur le marché. Pourquoi? Parce que les gens, maintenant, se focalisent sur le quatrième trimestre qui est un peu moins bon. Mais le message est ultra positif. En plus, ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas une puce. Ils font des puces sur mesure pour Google, Meta, OpenAI, puis les autres hyperscalers. Donc, c'est très positif. De l'autre côté, Snowflake, on se souvient, des softwares. Ça confirme que l'intelligence artificielle, je suis désolé, j'ai dit ce mot au moins 10 fois aujourd'hui, ça commence à devenir vraiment un moteur de revenus. On a un chiffre d'affaires qui progresse de 35%, des revenus produits qui progressent de 37%, et on voit que c'est le troisième trimestre consécutif où on a une accélération des revenus. Donc, c'est très positif à ce niveau-là.
Merci infiniment, John Plassard, Cité Gestion. Le mot de la fin, Alexandre Ezez. C'est vrai qu'il y a toute cette question qu'on peut se poser, l'IA qui fait peur par ses accélérations, par ses disruptions, par ses goulots d'étranglement. On boucle la boucle de l'émission, mais il y a bien un moment, faut y être. Ce que disait Charlotte était très très intéressant sur cette forme de retour à une certaine forme de rationalité autour de l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses en cette rentrée, après avoir laissé les valorisations totalement exploser? Là, on revient un petit peu à la raison et on arrive à quantifier un petit peu mieux la chose.
On arrive à quantifier. C'est vrai que Snowflake, c'est intéressant parce que c'est le bout de la chaîne, c'est les utilisateurs. Les softwares, on pensait que c'était... On a mis tout ça à un moment à la poubelle en disant c'est fini, c'est disrupté. Finalement, on voit qu'il y a des entreprises qui s'en tirent bien et qui vont en plus accélérer leur modèle. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les valorisations ont un peu baissé. Franchement, avec les résultats que l'on a sur les entreprises, les valorisations, elles baissent. Même si on monte de 5, 6%, voire 10%, on est tellement au-dessus des consensus que ça va continuer. Et ce qui est incroyable, on voit Broadcom, on a quand même une visibilité qui est extrêmement forte. Et ça, à la fois, c'est rassurant, mais ça peut faire peur, parce qu'on se dit s'il y a une déception. Mais quand on parle de 2028 avec les chiffres de Broadcom, on se dit, mais en fait, de toute façon, la ligne, elle est faite. Alors, le risque, c'est qu'on a une telle visibilité sur les investissements, c'est qu'encore une fois, je me répète, mais le risque, c'est que ça phagocyte lance tout le reste, c'est-à-dire que pourquoi ne pas aller là-dessus aller sur le reste. Ben non, en fait, donc c'est là le risque, cette concentration et les déceptions. On n'en aura pas encore. Ça viendra. Vous parliez des signaux noirs tout à l'heure. Mm-hmm. Ça viendra de quelque chose. Et c'est nos métiers aussi, c'est de voir qu'est-ce qui pourrait enrayer cette visibilité. Et c'est là où en fait on doit nous travailler en tant qu'experts, parce que c'est de là que viendra effectivement la fin, en tout cas le retournement.
Broadcom, alors quelques déceptions hein, concernant les chiffres. Bon, faut dire que c'est un titre qui avait explosé ces deux dernières années. Donc là, il y a quelques petites prises de profit hein, quand même, moins 6,3%. Oh, Snowflake, plus 20,5%. C'est totalement délirant. Je vais juste regarder là, la hausse de Snowflake. Sur trois mois, ça prend 50%. Et depuis un an, 66%. Et là, ça continue. Plus 20% sur la seule séance d'aujourd'hui. Bah tiens, on en reparle tout à l'heure dans BFM Bourse avec Guillaume Sommerer. C'est dans 5 minutes. USA Today, c'est fini. Charlotte Tamer de Shares, merci d'avoir été avec nous. Alexandre Ezez et John Plassard, qu'on salue évidemment, Cité Gestion. Et qu'on retrouve demain pour une nouvelle édition du USA Today. Tout de suite, BFM Bourse.
USA Today sur BFM Business.